RFI, grand reportage, Brice Barillon.
Le grand reportage du jour va nous emmener au Kirghizistan. Il y a 4 mois, dans le sud du pays, du 10 au 13 juin, la ville de Osh était le théâtre de violences ethniques entre communautés kirghizes et ouzbèques, de véritables pogroms. Depuis, rien n'a été fait pour apaiser les tensions et la communauté ouzbèque, de loin la plus touchée, reste montrée du doigt comme seule responsable de ces troubles. Camille Magnard, le correspondant de RFI dans la région, est retourné à Osh aujourd'hui. Osh, après les Pogrom, c'est son grand reportage, réalisé par Marc Minatel.
Voyez-vous-même, il ne reste plus rien de ma maison. Ici, il y avait 3 pièces, de l'autre côté aussi, avec les meubles, le frigo, tout. Ici, dans cette cour, vivaient 3 familles. Et maintenant, on va reconstruire, mais on n'a plus rien, plus de travail, plus d'argent. C'est la Croix-Rouge qui nous permet de reconstruire. On va faire 2-3 pièces selon ce qu'ils nous disent, mais l'essentiel c'est d'être là, de garder notre terre. Le reste, on verra.
Tcherio Mouchki, c'est ce que l'on appelle à Osh une mahala, un quartier de maisons très compact et étendu où ne vivent pratiquement que des familles d'ethnie ouzbèque. Aujourd'hui encore, 4 mois après les pogroms du mois de juin, les blessures ici sont toujours à vif. Les murs des maisons éventrés, rongés par les flammes, les impacts de balles un peu partout. Abandonnés par leurs habitants qui fuyaient les violences, ces quartiers reprennent vie peu à peu aujourd'hui. L'heure est à la reconstruction. D'ailleurs, Tcherio Mouchki est envahi par les tas de sable, de briques et de gravats. Partout, on entend les bruits de dizaines de chantiers improvisés. On déblaye les ruines, on remonte des murs à la force des bras. Le tout sous le contrôle d'organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, le HCR ou encore ACTID, une ONG française très active dans la région. Marta Sacchanini est responsable du programme de reconstruction pour ACTID.
Le programme prévoit la reconstruction de logements d'urgence qui font tous 28 mètres carrés avec 2 pièces, des constructions très simples de briques avec un sol en planche de bois et un toit de tôle. Ce n'est pas une reconstruction complète des quartiers, on serait incapable de faire ça avant l'hiver. Le but, c'est de donner à chaque famille un abri pour passer l'hiver et refaire le point au printemps prochain. Les gens les plus touchés ont vraiment tout perdu. Il faut leur fournir un toit, mais aussi des couvertures, des vêtements, des chaussures, des vivres pour l'hiver. Certains ont pu conserver leur logement et quelques biens, mais il y a eu beaucoup de pillages et de destructions. Et les gens ont vraiment tout perdu.
Sur le terrain, dans les quartiers de Tcherio Mouchki, de Fourkat ou de la rue Lénina, les ONG s'activent pour parer au plus pressé. Mais si les dégâts physiques se résorbent peu à peu, les rancœurs entre les Ouzbèques de Osh et leurs voisins kirghizes restent très vives. Dans le quartier de la rue Lénina, les portails s'ouvrent sur des maisons, elles aussi dévastées. Les habitants se sont réfugiés chez des proches, mais hommes et femmes reviennent chaque jour chez eux pour continuer les travaux et raconter encore les traumatismes de ces 3 jours de pogrom.
Quand le quartier de Tcherio Mouchki était déjà en feu, on est monté sur les toits pour voir ce qui se passait. Et on a vu la ville qui brûlait. On n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait en dehors du quartier. On a senti le danger et on a barricadé les entrées du quartier avec des arbres et des voitures. Le soir, le muezzin de notre mosquée a lancé un appel. Il disait « Restez chez vous, mais ne dormez pas, restez vigilants ». Quand le char est arrivé et a ouvert la barricade, je l'ai entendu. J'ai réveillé mes 3 filles et je me suis arrangée pour qu'elles partent en direction de la frontière ouzbèque. Ensuite, je suis restée ici avec mon mari et quand les tirs, les incendies ont commencé, on a pu fuir par les toits. Si le muezzin ne nous avait pas alertés, j'aurais gardé mes filles avec moi et nous n'aurions pas pu fuir. Il a sauvé nos vies. Et aujourd'hui, on l'arrête, on l'accuse d'avoir participé aux violences juste parce qu'il nous a prévenus. Mais quel pouvoir peut faire des choses pareilles ?
Depuis juin, rien ou bien peu est fait pour apaiser la rancune entre les communautés. Les autorités locales, la grande majorité kirghize, ont laissé se développer un discours officiel qui stigmatise les Ouzbèques et en fait les seuls responsables des affrontements. Les Ouzbèques auraient déclenché les hostilités et les Kirghizes, eux, n'auraient fait que répondre à l'agression. une thèse que ne supportent plus les voisins de la rue Lénina.
La télévision ne la regarde même plus. Avant, on avait deux chaînes en ouzbek qui montraient ce qui se passait sans commentaire. On pouvait se tenir au courant. Mais depuis les massacres, ils ont fermé tous les programmes ouzbeks. Il n'y a plus que les chaînes kirghizes qui n'arrêtent pas de dire et de montrer que les ouzbeks sont coupables, que ce sont eux qui ont commencé les violences. Mais même si c'est nous qui avions commencé, qui leur a donné le droit à eux de venir dans nos quartiers, de tuer, d'incendier comme ils l'ont fait? Moi, je pense qu'ils ont déclenché ce conflit pour nous mettre dehors et mettre des Kirghizes à notre place.
Reclus dans leur quartier, les Ouzbeks manquent à l'appel dans le centre de Hoche. La ville, depuis la chute de l'URSS, se voulait la vitrine grandeur nature d'un Kirghizistan indépendant où cohabitaient en paix près de 80 minorités ethniques. À Hoche, les Ouzbeks ont toujours été les plus nombreux, mais depuis l'indépendance, le poids démographique des Kirghizes n'a pas cessé d'augmenter. Depuis les événements de juin, l'impression est frappante. Quand on se promène dans le centre de la ville, on ne croise presque plus que des Kirghizes, alors que les Ouzbeks étaient encore partout il y a 4 mois. Pourtant, un jeune homme accepte de nous parler. Il est d'ethnie ouzbek, travaille dans le centre, mais vit en dehors de la ville. Pour discuter, il nous emmène à l'écart de la foule.
It's not possible to speak free. Some places in center of city.
On ne peut pas parler librement partout dans le centre-ville, dans des endroits où il y a trop de Kirghizes autour. Avant les événements dans le centre, on voyait beaucoup d'Ouzbeks, mais maintenant il y a beaucoup plus de Kirghizes. On ne voit plus de jeunes Ouzbeks, seulement des femmes avec des enfants ou alors des vieillards. Les jeunes ont fui le pays. Ils sont partis travailler en Russie. Moi, j'ai un ami qui est parti. Quand il était ici, il me disait : on ne peut plus vivre ici. Il disait qu'il ne voyait plus de futur pour lui ici et pour le Kirghizistan en général. C'est pour ça qu'il a décidé de partir lui aussi.
Il serait 37 000, en grande majorité des Ouzbeks, à avoir quitté la ville pour la Russie ou le Kazakhstan depuis juin. Les jeunes partaient depuis longtemps, déjà cherchaient du travail à l'étranger. Mais aujourd'hui, chose nouvelle, on voit émigrer des familles entières qui laissent derrière elles cette ville où elles ne veulent plus ou ne peuvent plus vivre. On ne reconnaît plus grand-chose non plus du grand marché d'Hoche, un bazar légendaire dans toute la vallée du Ferghana. Ici se vendaient depuis des siècles les produits phares de la région, fruits, tissus, vêtements, mais aussi les tonnes de produits chinois qui ont envahi les marchés ces dernières années. Dans les allées, le long de la rivière, les Ouzbeks étaient de tout temps les plus présents, mais aujourd'hui, le grand bazar n'est plus qu'un champ de ruines et de cendres. Parmi les décombres, quelques vendeurs continuent tout de même d'installer chaque matin leur étal. Oksana est de cela.
Il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur de revenir travailler ici. Tout le monde craint qu'il puisse se passer à nouveau quelque chose. Avant, ce marché, c'était le plus grand de toute la région. Il y avait beaucoup plus de monde, des vendeurs et des clients. Et maintenant, vous voyez, il n'y a plus que l'allée centrale qui reste ouverte. Sinon, tout a brûlé. Regardez, mon magasin est là, derrière, ils l'ont incendié aussi. On a tous été victimes. Ici, avant, il n'y avait que des vendeurs ouzbeks, ils vendaient des produits ménagers. C'est pour ça que cette allée en particulier a été détruite. Et c'est pour ça que les ouzbeks ont peur de revenir ici. Et là-bas, il y a des allées où avant c'était des ouzbeks qui vendaient, mais maintenant on les empêche de revenir. Et ce sont des vendeurs kirghizes qui ont pris leur place.
Le grand bazar, le cœur de l'ancienne Hoche, ne devrait pas être reconstruit. La mairie avait justement depuis quelques mois le projet de le raser et d'y construire un parc. Les centaines de vendeurs chassés par les violences de juin ont trouvé refuge dans des halles plus petites et moins fréquentées. Mais là où auparavant, Ouzbeks et Kirghizes se partageaient l'espace, maintenant la règle c'est chacun chez soi.
Nous, on vend de l'or. Avant, on travaillait au grand marché central, mais à cause des violences ethniques, à cause de cette guerre, tout a brûlé là-bas. Mais ici, on est mieux, même s'il y a moins de clients. En fait, les anciens marchands du bazar, maintenant, travaillent séparément. Les Ouzbeks sur leur marché et nous, les Kirghizes, ici. On a peur d'aller là où ils sont. Eux, ils se promènent tranquillement, mais nous, on a peur parce que c'est eux qui ont commencé cette guerre.
Sevgilim,
À présent, on ressent une forte défiance entre communautés kirghizes et ouzbèques.
Ruslan Tachanov, analyste et responsable d'un programme de dialogue interethnique.
Les kirghizes ne s'aventurent plus dans les quartiers à grande majorité ouzbèque, en particulier la nuit. Même chose dans les quartiers à dominante kirghize. Les ouzbèques ont peur de s'y promener. Ça n'existait pas avant le 10 juin. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de peur réciproque qui domine et qui est alimentée par des rumeurs. Les kirghizes disent que les ouzbèques sont en train de s'armer pour provoquer à nouveau un conflit. Et de l'autre côté, les Ouzbeks disent que les Kirghizes vont revenir détruire leur quartier. Et il y a quelqu'un entre les deux qui fait circuler ces rumeurs dans les deux communautés, quelqu'un qui a tout intérêt à provoquer les tensions. Mais la peur, elle est bien là. Même moi, qui suis un homme tolérant, j'ai peur de rentrer chez moi seul quand je sors du travail tard le soir. Alors j'appelle un taxi et je lui demande de venir me chercher devant la porte et de rouler vite, en évitant certains quartiers.
La peur, les deux communautés la revendiquent comme l'apanage des victimes dans un conflit qui n'a toujours pas été élucidé. Une commission d'enquête internationale doit étudier le déclenchement des événements, savoir qui a allumé la mèche de ces haines interethniques, mais aussi qui a organisé ces pogroms et qui a laissé faire. Le travail de cette commission commence à peine, longtemps retardé par les autorités kirghizes, et faute de responsables établis, les forces de l'ordre à Osh, à grande majorité composées de policiers d'ethnie kirghize, mettent la pression sur les jeunes ouzbèques. Descentes dans les quartiers, arrestations, tortures, rackets, rien n'est épargné aux ouzbèques, rendus responsables de leur propre malheur. AOSH, une organisation de défense des droits de l'homme, vient en aide aux victimes de ces répressions massives. Mouhammad, juriste, gère la trentaine de dossiers dont s'occupe l'organisation.
Tous sont arrêtés pour des accusations de participation aux troubles. C'est le prétexte qui est toujours donné. Beaucoup sont accusés d'homicide, d'autres de détention illégale d'armes ou de séquestration. Les familles arrivent chez nous désespérées et nous expliquent qu'ils n'ont nulle part où aller, que leur fils ou leur proche a été arrêté sans raison alors qu'il est innocent. Et la plupart du temps, quand on vérifie, eh bien on voit que c'est vrai et que presque toutes les instructions sont menées en violation totale avec la loi. Aujourd'hui, tous ceux qui s'occupent de ces cas, les défenseurs des droits de l'homme, les avocats, tous ont des problèmes. Il y a des menaces, des pressions. On travaille vraiment sous haut risque.
Le 29 septembre, un tribunal jugeait un ouzbek accusé d'avoir tué le chef de la police de Karatsou.
Marat est avocat, il est l'un des rares à Osh à accepter de défendre les ouzbeks.
Les proches du mort étaient là, ils criaient des insultes dans la salle d'audience. Et pendant une pause, les policiers eux-mêmes ont ouvert le box de l'accusé et ils l'ont tabassé, à l'intérieur même du tribunal. On a su ça, et le lendemain, un avocat d'ethnie kirghize, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, il n'aurait même pas pu parler. Un kirghize donc se lève et au nom de tous les avocats dénonce ce qui s'est passé. Et bien immédiatement, il a été lui aussi agressé et frappé. Même moi, quand j'ai voulu le défendre, je me suis pris des coups. Voilà comment ça se passe. Voilà comment se comportent la police et la justice depuis les massacres de juin. Il faut que la communauté internationale le sache et qu'elle enquête enfin sur tout ça.
Difficile, 4 mois après les pogroms de juin, d'imaginer une Osh à nouveau pacifiée et tolérante. L'empreinte laissée par le déchaînement de violence est profonde dans la ville comme dans les esprits. Erika Marat, jeune chercheuse kirghize, vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle a grandi ici même à Osh.
Pour moi, Osh was always a place where all the people had their differences.
Pour moi, Osh a toujours été une ville où les gens avaient leurs différences. Il y avait une certaine animosité, mais chacun avait appris à vivre avec ses différences. Ils avaient appris à se connaître et à respecter les limites de chaque communauté. Et les événements de juin ont été vraiment une terrible surprise pour moi. Je n'imaginais pas que la haine ethnique puisse atteindre un tel niveau. Et maintenant, je suis aussi surprise de voir que consciemment ou inconsciemment, tout le monde se forge une opinion sur ce qui s'est passé par rapport à son appartenance ethnique. J'ai vu beaucoup de mes amis d'ethnie kirghize tomber dans ce piège et devenir vraiment très nationalistes alors que je ne les avais jamais entendus tenir de tels propos. Il y a quand même certaines personnes qui essayent de faire abstraction de leur origine ethnique et qui veulent rester objectifs sur tout ça. Mais c'est devenu très difficile.
Hoche après les pogroms, un reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Et nous retrouvons tout de suite en ligne et en direct Camille Magnard qui a réalisé ce reportage au Kirghizistan. Camille, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez dans ce reportage dressé le portrait d'une ville, Hoche, qui reste très meurtrie par les violences du mois de juin dernier. Quelle est l'attitude des autorités locales dans la gestion de l'après-conflit ?
Eh bien, pour bien comprendre cette attitude des autorités locales, il faut parler, s'intéresser à un homme en particulier, un homme qui a eu un rôle très trouble dans les événements de juin et dans les mois qui ont suivi. Il s'agit du maire de Hoche, Melis Mirzakhmatov. C'est un homme politique et un homme d'affaires très influent dans la région. Il possède notamment plusieurs marchés à Hoche. Il est très connu aussi pour ses liens avec les milieux criminels, qui sont très forts dans la région. On dit même de lui qu'il est protégé par une armée privée de plusieurs centaines d'hommes. Eh bien, depuis les pogroms, il est de ceux qui ont tout fait dans leurs discours et dans leurs actes pour accuser les Ouzbeks d'avoir lancé les hostilités. Il est même allé jusqu'à féliciter publiquement les Kirghizes de Hoche d'avoir répondu avec force à la menace. Donc Mirzakhmatov est aussi détesté par la communauté ouzbek car depuis qu'il est arrivé à la mairie l'an passé, il a lancé un grand programme d'urbanisme pour la ville avec notamment pour conséquence la fermeture de beaucoup de restaurants et de magasins ouzbeks construits de manière illégale. En projet également la fermeture du grand bazar dont on parle dans le reportage et qui était jusque-là tenu par les Ouzbeks. Et puis encore, il prévoyait la construction de grands quartiers d'immeubles à la place des quartiers de maisons privées où vivaient principalement les Ouzbeks. Donc la communauté ouzbek lui reproche beaucoup de stigmatiser et de vouloir peut-être se débarrasser d'elle dans la ville.
Camille, on a beaucoup parlé du caractère ethnique de ces violences du mois de juin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects économiques ou sociaux qui peuvent expliquer le déferlement de violences ?
Bien sûr, les facteurs économiques, ils existent à deux niveaux, au plus haut niveau d'abord, car derrière ces affrontements qui ont pris la forme d'affrontements ethniques, on peut voir, il faut voir la main de plusieurs groupes d'intérêts, des groupes d'intérêts économiques et criminels locaux, avec notamment en jeu le contrôle du trafic de la drogue afghane qui transite dans la région de Hoche. Donc ces pogroms ont été attisés par ces groupes, kirghizes comme ouzbeks, qui voulaient régler leurs comptes entre eux. Et puis pour ce qui est des facteurs sociaux, cette fois, c'est vrai qu'entre communautés kirghizes et ouzbeks, il y a depuis toujours dans la région une forme de ressentiment économique. Les Kirghizes sont historiquement moins implantés dans les villes, ils possèdent et exploitent moins la terre, ils habitent plutôt dans des immeubles et pas dans des maisons privées. Et donc ces Kirghizes qui viennent souvent de villages très pauvres autour de Hoche voient d'un mauvais œil le poids des Ouzbeks sur le commerce, le foncier, et forcément ça crée des tensions, des jalousies. Et après il a suffi à certains groupes d'intérêt d'agiter ces tensions et dans un contexte économique et social très dur dans la région, et les communautés se sont très vite embrasées. Car c'est vrai que dans ces villages de montagne extrêmement pauvres où vivent les Kirghizes, où il n'y a pas de travail pour la jeunesse, eh bien, il n'est pas difficile de trouver et d'armer quelques centaines d'hommes en leur disant que c'est l'autre, l'Ouzbek, qui leur vole leur terre et leur argent.
Vous avez réalisé ce reportage avant les élections législatives d'il y a deux semaines. On attendait beaucoup de ce scrutin pour apaiser la crise politique que traverse le pays. Où en est-on maintenant ?
Bien deux semaines plus tard, les résultats officiels de l'élection n'ont toujours pas été prononcés. La tension ne cesse de monter entre le pouvoir en place et les deux partis d'opposition, deux partis qui sont originaires du Sud et qui ont déjà redemandé le recompte des voix et qui aujourd'hui accusent le pouvoir, qui représente plutôt les forces politiques du Nord, de ne pas vouloir reconnaître la victoire de ces partis du Sud. Il y a un deuxième parti qui s'appelle Boutoun Kirghizistan qui voudrait entrer au Parlement et qui considère que la commission électorale ne lui a pas donné des résultats qui sont conformes à ces résultats. Donc il y a des tensions qui restent très vives.
Merci.
Et qui continuent à se monter
autour. Merci beaucoup. Camille Magnard en direct, donc après ce reportage dans le sud Kirghizistan.